Il est 6h51, on enchaîne avec la revue de presse internationale que nous a préparée Anthony Bélanger. Vous retenez un mot pour résumer le sentiment de beaucoup de journaux en Europe et dans le monde.
Oui, et ce mot s'étale ce matin à la une du quotidien de Munich, la Süddeutsche Zeitung. Ce mot, c'est une onomatopée presque, ouf, un ouf de soulagement que la Frankfurter Allgemeine Zeitung, cette fois, tente de positiver en expliquant que la victoire d'Emmanuel Macron est en cette année sombre est la meilleure nouvelle depuis longtemps pour l'Allemagne. La FAZ laisse même poindre une certaine admiration. Emmanuel Macron n'a pas cherché son salut dans un euroscepticisme tactique comme tant d'autres hommes politiques européens. Il a eu le courage de promouvoir l'Union européenne comme une solution aux problèmes à la fois identitaires et sociaux de la mondialisation.
Il n'y a aucune critique à l'encontre d'Emmanuel Macron en Allemagne.
Si. Ces critiques, on les trouve à gauche et dans les pages de la Tageszeitung cette fois-ci. Emmanuel Macron n'est pas réélu parce qu'il a été convaincant. Il doit sa victoire à son adversaire Marine Le Pen, dont l'extrémisme, la démagogie et l'incompétence manifeste ont donné au président sortant les voix qui lui étaient nécessaires. Le Corriere della Sera reprend le même raisonnement mais avec un angle original, celui de la chance. Comme disait Napoléon, en politique, la chance est plus importante que l'habileté et l'intelligence. La chance d'Emmanuel Macron est d'avoir affronté pour la seconde fois sa meilleure ennemie, à savoir la chef de l'extrême droite, Marine Le Pen. Ça semble presque un compliment, cette comparaison entre Napoléon et Emmanuel Macron. Mouais. À voir. Hein. Les Italiens n'oublient pas qu'ils ont souffert de l'un comme de l'autre. L'actuel président français, tout à son bonapartisme républicain, avait beaucoup maltraité Rome au début de son premier mandat.
Alors Marine Le Pen, elle réalise toutefois un score inédit pour l'extrême droite. Quel commentaire cela suscite-t-il ?
Eh bien, The Independent à Londres écrit, il est effarant, voire effrayant, qu'autant de gens dans cette si ancienne culture démocratique et civilisée aient volontairement souhaité installer une néo-fasciste à l'Élysée. Alors évidemment, l'utilisation du terme néo-fasciste pour qualifier le mouvement de Marine Le Pen est peu inhabituelle de ce côté-ci de la Manche. Elle vient nous rappeler en creux un vieux reproche britannique, la France, ce pays qui a si mal résisté au fascisme en 1940 et a laissé la Grande-Bretagne seule face au nazisme. À partir de la même frayeur d'ailleurs, on obtient pourtant une analyse complètement différente au Brésil dans les pages de A Folha de São Paulo. Après ce second tour perdu, une fois de plus, la marque Le Pen aura du mal à maintenir son droit quasi thaumaturge à disputer la présidentielle au nom de son bloc idéologique. La victoire d'Emmanuel Macron est de plus, le signe d'une démocratie qui a su résister à l'extrême droite. En fait, A Folha parle tout autant de la France que du Brésil, qui votera en octobre et devra choisir entre l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et le tribun de gauche, Lula da Silva.
Et en Espagne, El País de Madrid s'en prend, lui, au système électoral français.
À ce qu'il appelle la crise grave de la représentativité démocratique, à cause du vote majoritaire à deux tours, le Rassemblement National de Marine Le Pen est de fait un parti paria, sans groupe parlementaire et comptant seulement une dizaine de villes sur les 36 000 communes de France. Ça explique en partie les révoltes sociales comme celle des Gilets jaunes. Emmanuel Macron devra en priorité donc recoudre cette France fracturée, un peu comme l'Espagne, j'ajouterais, tiraillée entre l'extrême droite et l'extrême gauche, alors même qu'elle dispose, elle, de la proportionnelle pour élire son Parlement. Enfin, il y a le ton, comment dire, légèrement ironique et surtout très Macron-compatible du New York Times. En général, les Français n'aiment pas leur président et aucun n'est parvenu à se faire réélire depuis 2002. Sa réélection, Emmanuel le doit à sa gestion de la crise Covid, à la reprise économique et à son intelligence politique à occuper tout le centre du spectre politique et sa victoire claire à sauver la France du nationalisme xénophobe, même si son capital politique est aujourd'hui plus limité qu'il y a 5 ans.
Anthony Bélanger, son histoire du monde en mode revue de presse internationale ce matin. France Inter.